Alors, je veux dire pour commencer que je pourrais prendre à mon compte une grande partie de ce qu'a dit Jean Nomazer, avec lequel je suis d'accord, et en particulier avec le fait qu'il y a chez Orioux quelque chose qu'on ne trouve pas, je crois, chez les autres maîtres célèbres, illustres du droit public français, c'est-à-dire une espèce de pensée en mouvement. Orioux en mouvement, et un livre qui s'appelle Montaigne en mouvement, c'est un peu ça, qui est peut-être lié, c'est une hypothèse que je forme, mais que je ne développerai pas parce que j'ai d'autres choses à dire, à une dominance de l'enseignement oral. Il me semble qu'il y a dans l'œuvre d'Orioux, et en particulier dans cet ouvrage-là, le témoignage d'un enseignement oral qui est d'abord oral et où les idées s'appellent en quelque sorte les unes les autres, plus que dans une pratique qui est celle de la majorité de nos contemporains qui écrivent un cours et qui ensuite le lisent. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est dit avant d'être écrit. Donc, cet ouvrage a un caractère extrêmement surprenant dans ce sens que c'est une création permanente où les idées fusent les unes après les autres et se superposent aussi. C'est une création par superposition, ce qui fait que quelquefois on a du mal à en découvrir, me semble-t-il, la ligne directrice. C'est également une pensée synthétique mais difficile à synthétiser en raison justement de son caractère extrêmement buissonnant. Je crois que l'adjectif est exact, qui ne donne pas l'impression d'être totalement maîtrisé. J'ai beaucoup aimé le mot de trouvère, car effectivement, Orioux est quelqu'un qui trouve tout le temps. Malheureusement, il n'organise pas toujours, me semble-t-il, de façon extrêmement convaincante ses découvertes, si bien qu'il y a énormément d'idées qui souvent n'ont pas de suite, c'est-à-dire qu'il pose des distinctions, il invente des formules, il oppose des mots, mais ensuite il n'en tire pas véritablement de parti parce qu'elles sont, ces formules, ces mots sont en quelque sorte recouverts par une nouvelle vague, et c'est un vrai. Peu semblable au mouvement de la mer qui efface ses propres traces. Et ça, c'est très étrange. Je ne connais pas d'autres exemples. C'est très intéressant, c'est très provocant pour l'esprit. Et de ce point de vue-là, la lecture de l'ouvrage est vraiment stimulante. Cela dit, si on pose la question, non point du mouvement propre de cette œuvre, mais de ce qui en subsiste aujourd'hui, je dirais que, il me semble, cette lecture est intéressante pour deux raisons qui sont en partie contradictoires. La première, c'est parce qu'elle nous permet de mesurer l'écart de notre propre réflexion par rapport au monde qui est évoqué là. Et cet écart est considérable, je vais en parler d'abord. Ce qui est fructueux, enfin, je veux dire, c'est un miroir qui nous est tendu et qui nous permet de préciser nos propres conceptions sur un certain nombre de points. Et puis, d'autre part, et cette fois-ci de façon plus positive, il y a un certain nombre de thèmes qui sont présents dans Orioux, quelquefois de façon un peu vague, un peu inaboutie, mais qui sont des idées qui ont été complètement abandonnées par la suite, qui constituent des manques, à mon avis, des lacunes dans la doctrine contemporaine. Donc il y a, je pense, à la fois un effet de clarification de nos pensées qu'on peut en tirer par comparaison avec quelqu'un qui a des canons de pensée assez différents, et en même temps un réservoir de thèmes sur lequel il faudrait peut-être revenir, et c'est les deux points que je vais examiner de façon assez rapide. Alors, en ce qui concerne d'abord l'écart historique qui nous sépare de cette pensée, qui me paraît tout de même considérable, je dirais que, à mon sens, il se situe sur deux plans. D'abord, sur le plan du langage. Il me semble qu'il y a, dans notre rapport au langage, et plus spécifiquement au langage juridique, quelque chose qui a changé assez profondément par rapport à l'usage qu'en faisait Orioux et qui peut susciter, si on n'y prend pas garde, beaucoup de sinon le contresens, du moins le faux sens, sur sa pensée. Et puis, il y a, je pense, aussi un autre rapport au pouvoir, parce que Horiot écrit avant un certain nombre d'expériences tragiques qui ont complètement changé, me semble-t-il, la manière dont nous posons aujourd'hui le problème du pouvoir. Sur le langage, d'abord, je voudrais faire un certain nombre d'observations sur l'usage que Horiot fait du langage. Je partirai d'un fait simple et en lui-même peu significatif, mais qui me paraît un bon point de départ, et qui est celui-ci. Horiot utilise de façon systématique des sujets abstraits pour gouverner des verbes concrets. Et des formules telles que « les équilibres assurent la durée et le mouvement uniforme des systèmes sociaux » ou bien « la société suit une tactique complexe » ou bien encore « la société s'attache à créer des voies de communication », des formules de ce genre se trouvent absolument sans arrêt sous sa plume. Et ça nous paraît, me semble-t-il, un peu étonnant parce que pour des raisons diverses, notre épistémologie a quand même plus tendance à penser que les individus agissent plutôt que les abstractions. Or, on a souvent l'impression, en lisant Horiot, qu'il y a une espèce de gigantomachie, des entités abstraites qui sont là, dans le paysage, on ne sait pas pourquoi, et qui agissent, qui ont la capacité très étonnante d'organiser la réalité. Il dit aussi souvent, très souvent, il faut que ceci se produise. Mais il faut, pourquoi ? Il faut pour qui ? Il faut par rapport à qui ? L'inconvénient d'enrôler ainsi les abstractions, c'est qu'on perd de vue que, par exemple, il peut y avoir des intérêts contradictoires qui se rencontrent et que les intérêts des uns ne sont pas nécessairement les intérêts des autres. Alors, naturellement, j'ai pris ce risque en prenant la chose par le petit bout de la lorgnette, on pourrait répondre que ce sont là des tics de langage qui sont d'ailleurs tout à fait connus. Et cette critique n'a rien de nouvel. Bouvard et Pécuchet la font vis-à-vis de la philosophie du XIXe siècle. Ça n'a rien d'original. Mais ces tics de langage me paraît significatif en ce sens qu'une autre différence apparaît, semble-t-il, par rapport à ce que nous enseignons à nos étudiants et à ce que nous attendons d'eux. Le premier reproche qu'on fait à une thèse qu'on examine dans un but d'évaluation, c'est de dire que le candidat, quand c'est le cas, que le candidat ne définit pas les termes. Or, je suis frappé du fait que dans de très nombreux cas, Horiot ne définit pas les termes. Et quand il les définit souvent avec des formules obscures qui expliquent l'obscur par le plus obscur ou qui prétendent l'expliquer sans vraiment y parvenir. Mais il arrive très souvent qu'il ne définisse pas ce qu'il dit. Par exemple, il parle de la souveraineté nationale. Bon, la souveraineté nationale, c'est une expression très équivoque. L'équivoque se retrouve jusque dans la Constitution de 1958. C'est une expression aussi dont on a fait un usage, des usages extrêmement variés dans l'histoire constitutionnelle française, c'était déjà vrai en 1910. Et il ne dit pas ce qu'il entend par là. Or, ce qu'il entend par là est tout à fait différent de ce qu'entend Esmin, par exemple. Et il critique fréquemment Esmin. On sait qu'on connaît bien les polémiques d'Horiot avec Duguy, mais on sait moins qu'il discute très souvent et souvent sur un ton assez aigre, Esmin. Bon, Esmin a une conception qu'il explicite. Esmin a une conception qu'Esmin explicite de la souveraineté nationale. Celle d'Horiot est différente, mais il ne l'annonce pas. Il faut le lire, il faut en lire 30 pages pour être convaincu de ce que conception qu'il s'en fait est différente et de ce que contient à peu près sa propre conception. Et il y a ainsi beaucoup de formules qui sont utilisées comme si le sens qu'il leur confère était transparent, était évident. Il ne se demande jamais si des termes différents ne sont pas synonymes. Ou bien si, quand il fait une distinction, on ne pourrait pas prendre les mots dans un sens inverse au sien. En réalité, quand il utilise un mot, il n'explicite pas une décision. Il se réfère implicitement à une essence. Et donc, il y a en arrière-plan de sa théorie une ontologie réaliste ou essentialiste où le sens est supposé connu et né variétude. Dans le même ordre d'idées, il considère, ce qui est un tic très courant chez les juristes, mais dont je crois nous nous défions davantage aujourd'hui, il considère que l'usage des mots a un effet causal, qu'employer un mot plutôt qu'un autre pour désigner une réalité, ça produit des effets. Et donc, il entreprend, comme disait Confucius, mais Confucius c'est quand même très antérieur, il entreprend de rectifier les significations, et il considère que il y a un enjeu décisif à utiliser le mot juste, mais naturellement cet enjeu n'existe que s'il y a un sens exact, ce qu'il postule sans le démontrer. Je prends un exemple concret qui me semble particulièrement intéressant. Il attache beaucoup d'importance à démontrer que les pouvoirs publics, ce qu'il appelle le gouvernement, mais quand il parle du gouvernement, c'est au sens anglais du terme, et ce n'est pas par anglicisme, c'est parce que c'est ainsi qu'il voit les choses. Le gouvernement, c'est l'ensemble des pouvoirs publics, l'ensemble des autorités publiques. Ça n'est pas l'exécutif. Encore que, dans d'autres cas, il utilise le mot gouvernement pour désigner l'exécutif. Donc, il attache beaucoup de prix au fait de démontrer que les pouvoirs publics reçoivent du souverain une investiture et non une délégation. C'est un point sur lequel insiste énormément. Et pourquoi ? Parce qu'il veut affirmer, et ceci me paraît un élément très important de sa théorie, il veut affirmer que le gouvernement, les gouvernants, ont une autorité propre, une autorité primitive, une autorité antérieure à toute délégation, d'une part, et d'autre part, qu'ils usent de cette autorité avec une marge incompressible de liberté, autrement dit qu'on ne peut pas, par le droit, réglementer au-delà d'une certaine limite l'usage qu'ils font de leur pouvoir. Bon. Pour démontrer cela, il dit une chose très étrange, car il y a souvent des choses très étranges chez Oriou. Il dit qu'il n'est pas possible que les compétences, les agents de niveau inférieur tirent leurs compétences des agents de niveau supérieur parce que le souverain ne peut pas déléguer des compétences techniques au gouvernement qui le déléguerait aux individus. Autrement dit, il démontre que si un professeur au Collège de France est compétent, sa compétence n'est pas déléguée par la nation à Sarkozy, qui la déléguerait à Pécresse, qui la lui déléguerait à lui-même. Sauf qu'une telle idée n'a jamais été soutenue par personne. Donc là, il y a un exemple, me semble-t-il, frappant, du fait que, à certains moments, le mot compétence au pied de la lettre, et il considère que les compétences techniques et les compétences juridiques sont des espèces d'un même genre, et que par conséquent, on peut réfuter l'idée de délégation en utilisant l'exemple des compétences techniques, ce qui paraît tout de même extrêmement peu probable. Mais l'important dans cette démarche, c'est l'idée de sauver une autonomie du pouvoir, ce qu'il appelle un pouvoir de domination, qui doit rester autonome et qui doit rester, comme possédant une valeur juridique, avant toute affirmation de droit, par exemple, toute affirmation constitutionnelle, je vais y revenir. cet usage du langage, il est également caractérisé par une confiance dans la valeur explicative des mots. Et ici, j'avoue ne pas être convaincu par l'usage qu'il fait d'un certain terme, et d'abord du terme d'équilibre. En effet, cette théorie générale des équilibres me paraît vide, ou plus exactement, elle me paraît verbale. En effet, elle s'applique à tout. On peut dire que dans l'euthanasie ou dans la mafia, il y a un équilibre, puisque dans la mafia, il y a des familles. C'est une idée qui est compatible avec toutes les hypothèses, puisque quel que soit le résultat, on pourra toujours dire qu'un équilibre a été réalisé. C'est une idée qui repose aussi sur un parallèle, à mon avis, fallacieux avec la notion d'équilibre économique, parce que les équilibres économiques sont quantifiables parce qu'ils sont abstraits. On peut tout traduire dans une seule unité qui est la monnaie. Alors que les équilibres politiques sont des illusions rétrospectives, ils sont forgés a posteriori, ils ne sont pas quantifiables. Et donc, parler d'équilibre politique, en réalité, c'est une métaphore implicite. Il y a souvent des métaphores dans Henriot, comme l'a dit Jean-Arnaud Mazer, mais quelquefois, ce sont des métaphores explicites. Là, c'est une métaphore implicite qui, légitimer cet usage, à mon avis, vague du terme d'équilibre politique, à partir du concept qui lui est précis d'équilibre économique. De même, l'usage qui fait des fonctions, n'est-ce pas, est un usage qui est pré-fonctionnaliste. Je veux dire que le mouvement du fonctionnaliste, ses pompes et ses œuvres, ses excès qui l'ont abouti à le discréditer, ça vient après, évidemment. Mais lorsqu'il explique les choses en termes de fonctions, lorsqu'il dit par exemple que tout droit, et d'ailleurs il ne dit pas ce qu'il entend par droit, là aussi il faut le comprendre par le contexte, qu'il entend par droit dans ce cas-là, que tout droit implique un intérêt, un pouvoir et une fonction. Bon, ce genre de tripartition me paraît fallacieuse, et en particulier l'explication par les fonctions me paraît dépourvue de sens, parce que expliquer, comme l'a dit un professeur au Collège de France, expliquer les choses par les fonctions, c'est les expliquer par ce qu'elles sont. Effectivement, on observe qu'un phénomène est ceci, on dit que c'est sa fonction, donc ça explique qu'il existe. C'est-à-dire que c'est une explication creuse. Donc l'explication par les fonctions comme l'explication par l'équilibre me paraît verbale. Elle repose sur l'idée, à mon avis naïve, que tout mot ayant un sens, à partir du moment où on peut coller un mot sur quelque chose, on l'a expliqué. J'ajouterai la même chose en ce qui concerne l'expression si attractive et si plaisante au départ de synthèse pratique. C'est une des formules qui abonde chez Henriot, qu'à première lecture on trouve extrêmement intéressant. Et puis ensuite, quand on réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce qui n'est pas une synthèse pratique? Cet objet magnifique que j'ai devant moi est une synthèse pratique. Tout est synthèse pratique. Il n'y a que des synthèses pratiques dans l'univers. Nous sommes nous-mêmes des synthèses pratiques de produits chimiques. Bon. Donc, je pense, n'est-ce pas, qu'il y a dans tout cela les traces de ce que j'appellerais une épistémologie pré-popérienne, c'est-à-dire une épistémologie qui ne se pose pas la question de savoir si ce qu'elle affirme est susceptible d'être faux. Beaucoup d'expressions d'Henriot, beaucoup d'explications d'Henriot, à mon avis, n'en sont pas parce que, tout simplement, il fait confiance à un usage spontané du langage qui ne peut pas permettre créer une véritable réflexion scientifique. J'ai terminé sur ce point en parlant de l'institution. Je n'ai pas développé ce point parce que, d'abord, je suis resté dans le cadre de l'ouvrage, n'est-ce pas ? Je n'ai pas regardé avant et après. Or, l'institution, comme l'a dit Jean-Arnaud Mazer, c'est dans l'œuvre d'Henriot, c'est à la fois avant et après. Là, j'ai fait le choix méthodologique de rester au niveau de l'ouvrage, et aussi parce que, à propos de sa théorie de l'institution, il me semble qu'il il pose de très bonnes questions. Bon, c'est certain que c'est un homme qui savait voir des difficultés, il savait s'étonner, n'est-ce pas, et qui savait voir des difficultés et essayer de les résoudre. Cela dit, cette question de l'institution et ces métaphores vitalistes dont nous ne sommes plus très friands, je ne suis pas sûr que la réponse soit au niveau des questions. Et un livre récemment paru, mais qui n'a pas fait les gros titres des journaux, le livre de Pierre Livet, Frédéric Neff, qui s'appelle « Les êtres sociaux », qui est paru chez Hermann l'année dernière. Si vous regardez ce livre, vous verrez poser des questions qui, au fond, étaient des questions d'Oriou, mais on voit bien que pour répondre à ces questions, il faut un matériel théorique qu'Oriou ne possédait pas, et d'ailleurs ce n'est pas une critique, parce que ce n'était pas, il n'était pas un philosophe de profession, et moins encore un philosophe au sens... excusez-moi, le mot que je cherche m'échappe par opposition à philosophie continentale, on dit philosophie analytique. Analytique, voilà, excusez-moi. Bon, donc ce n'était pas un philosophe analytique, et donc il n'avait pas, évidemment, il ne pouvait pas avoir à l'époque où il écrivait les instruments d'analyse qu'ont des auteurs contemporains. Mais sur ce coin cas précis, je pense que ça montre, si vous voulez, assez bien comment, à partir de questions très profondes, Oriou, pour des raisons qui, encore une fois, n'étaient pas de sa responsabilité, a abouti à des solutions qui sont finalement des autres. Alors, je vais être plus rapide sur la suite, pour ne pas être trop long. Je disais un autre rapport au pouvoir. Un autre rapport au pouvoir parce que, j'y ai allusion tout à l'heure, un thème qui lui tient particulièrement à cœur est celui de l'existence d'un droit de domination, qui a, dit-il, un caractère fondamental et primordial. Il insiste beaucoup là-dessus. Il dit, par exemple, là où il n'y a pas de loi, le gouvernement peut et doit pourvoir aux nécessités par son action directe. Le gouvernement, ici, c'est au sens large, n'est-ce pas ? Bon. Il y a donc une espèce d'autorisation, il y a donc un pouvoir qui est antérieur au droit, qui a cette caractéristique complexe d'être un pouvoir juridique et pourtant d'être antérieur au droit. Là, on touche à quelque chose qui est de la nature du droit naturel. Alors, il se fait une objection à lui-même, comme il fait un certain nombre de fois, et il dit « Mais si je dis cela, est-ce que tout pouvoir n'est pas un pouvoir de fait ?» Et il répond ceci « Une théorie juridique ne doit jamais violenter les faits si, en fait, le gouvernement, quoique subordonné, donc là, cette fois-ci, il parle de gouvernement au sens d'exécutif, le gouvernement, quoique subordonné, a conservé une valeur propre, la théorie juridique doit s'adapter exactement à cette situation. » Et là, me semble-t-il, on voit bien le décalage avec la pensée contemporaine, parce que ce qu'exige la pensée contemporaine, c'est exactement le contraire. La pensée contemporaine refuse que le droit naisse du fait, que le devoir-être soit créé par l'être, d'une part, et elle veut, d'autre part, à travers la notion d'état de droit, inventer, sans y parvenir, mais c'est un autre débat, un commencement absolu, inventer quelque chose dont tout le reste, et en particulier le pouvoir des gouvernants, sera déduit. Donc, il y a là, me semble-t-il, une espèce de confiance qui relève de la foi dans le pouvoir. Et, deuxième point, cette confiance qui relève de la foi, elle repose au fond sur l'idée antique que le pouvoir est toujours bon, ou du moins qu'il est toujours meilleur que l'absence de pouvoir. Au fond, le commentaire de cette théorie d'Oriou, c'est le discours de Créon dans l'Antigone d'Anouilh, n'est-ce pas ? C'est que quand tout part à volo, on tire dans le tas, et puis on a le droit, parce que sinon, ça serait pire. Bon. Et il me semble là, si vous voulez, que cette vision des choses, qui est au fond une vision religieuse, n'est-ce pas ? Qui est l'idée que tout pouvoir vient de Dieu, qu'un pouvoir est nécessaire, il me semble que cette vision des choses a été rendue obsolète par la suite de l'histoire et que l'histoire du XXe siècle nous a donné le sentiment qu'il existe des pouvoirs proprement diaboliques, c'est-à-dire des pouvoirs qui sont pires que l'absence de pouvoir, qui sont pires que l'anarchie. Et ça, je crois que c'est une expérience que n'ont pas les hommes de cette génération qui écrivent avant la Première Guerre mondiale, Et je pense que par rapport à notre vision du monde, il y a là également quelque chose qui est en décalage profond. Bon, je verrai beaucoup plus rapidement la deuxième partie, mais peut-être est-ce plus facile à évoquer, et je vais m'en tenir au grand trait. Je pense qu'il y a dans l'œuvre d'Horiot un certain nombre de points dont il serait très utile de s'inspirer. D'abord, il y a chez Horiot, ces deux points sont d'ailleurs liés, il y a chez Horiot une volonté de réalisme. Oui. Il a le sentiment très fort, et qu'il ne trouve pas toujours chez nos contemporains, que tout ceci n'est pas exclusivement des jeux de langage. Un certain enseignement du droit que nous connaissons est tout à fait déréalisant. Et lorsqu'il parle, par exemple, d'action directe, formule que nous avons entendu utiliser dans un autre sens, mais auquel il revient souvent, comme définissant l'action du gouvernement au sens étroit cette fois-ci, il veut dire par là qu'un gouvernement a pour finalité de faire quelque chose, et pas simplement de produire une rhétorique politiquement correcte. Or, c'est une chose qui est souvent perdue de vue aujourd'hui. L'idée que tout ça a malgré tout un enjeu pratique et pas simplement des enjeux théoriques et que le monde ne se réduit pas à la charte des droits fondamentaux. Ceci amène d'ailleurs à des contradictions, ou du moins à des difficultés internes à cette théorie, parce que, par exemple, il évoque le contrôle de constitutionnalité en disant que c'est un grand progrès de l'état de droit. Évidemment, ça c'est correct, ça on l'a déjà entendu quelque part. Mais en même temps, il dit plus loin, c'est page 450, mais avec renvoi à la page 75 où il évoquait la thèse inverse, il dit plus loin que les juridictions ne pourraient suspendre un seul instant l'action exécutive et l'action législative du gouvernement. Il dit qu'il n'a jamais été question dans un État moderne de faire jouer un tel rôle au pouvoir juridictionnel. Et il ajoute évidemment que les pays anglo-saxons, ça c'est son vocabulaire, c'est encore parfois le nôtre, connaissent de telles mesures, mais que ce pouvoir fait pas des organes juridictionnels un véritable pouvoir constitutionnel. C'est-à-dire qu'à la fois, il dit que c'est très bien d'avoir un contrôle de constitutionnalité, mais il dit aussi que ça ne doit pas paralyser l'action de l'État. Et là, il y a quelque chose qui n'est plus la doctrine contemporaine aujourd'hui, puisque dans le pouvoir juridictionnel, on affirme l'existence d'un pouvoir décisif et même prépondérant. Donc, je pense que ce souci de réalisme, ce sentiment que l'action de l'État, l'action du gouvernement, l'action des pouvoirs publics est quelque chose qui, d'une part, a un enjeu et qui, d'autre part, doit faire fonctionner une machine et pas simplement freiner le fonctionnement de celle-ci, est quelque chose qui est tout à fait remarquable chez Horiot parce que nous l'avons, dans une certaine mesure, perdu. Et le deuxième point, mais il est lié au premier, c'est qu'il y a chez Horiot un souci de la relation du juridique au social qui, il faut bien le dire, a disparu dans l'enseignement du droit public contemporain tel qu'il fonctionne, du moins généralement. C'est-à-dire l'idée que le droit repose sur quelque chose, qu'il y a peut-être un équilibre de superposition entre le social et le juridique, que le droit n'est pas quelque chose, une sphère fermée sur elle-même, comme l'être de Parménide, n'est-ce pas, quelque chose qui se suffit à soi-même et qui n'a pas à interagir avec la société. Alors, cette vision d'un droit pur, ceci n'est pas une polémique anti-kelsénienne, c'est une polémique anti-post-kelsénisme. L'idée d'un droit pur qui se suffit à lui-même, l'idée d'un droit qui se fonde en droit, ce qui est évidemment contradictoire, tout cela qui est très présent dans la pensée contemporaine me paraît très discutable, et il y a dans Horiot, à mon avis, des matériaux à rechercher pour essayer de revenir à une vision plus raisonnable, j'allais dire plus équilibrée des choses. Voilà. J'ai essayé de ne pas être trop long, j'aurais eu d'autres choses à dire, mais je les ai sacrifiées.